Quindi è lui che sta molto avanti per signore. Bonjour tout le monde, allez. Voilà. Matin, je vais parler plus sur moi-même, mais je pense qu'il y en a pour tous ce matin. Il y a deux semaines, j'étais seul, on a commencé une série sur les miracles du Seigneur Jésus. Donc, ce matin, on va arrêter ça. Puis on va prendre un temps spécial pour une fête importante. La fête des moments. D'accord, c'est une fête importante?
Oui.
C'est pas une fête biblique, mais c'est une fête importante parce que c'est une fête qui honore une créature que Dieu a créée, nos mamans. Et je dirais, les mamans sont importantes, pas juste à nous, sont importantes aux yeux de Dieu aussi, qu'on va voir ce matin. Et en plus, les femmes, pas juste les mamans, les femmes ont une grande influence dans nos vies, dans nos familles et dans la société. Et je vous dirais que s'il n'y avait pas de femmes, on vivrait probablement dans un monde en noir et blanc. Hein? Vous d'accord?
Oui.
Notre monde serait bien différent si les mamans, les femmes n'étaient pas là. Et je sais que ce matin, que pour certains, la fête des mères, ça peut être une fête qui est lourde. Parce que peut-être, votre maman n'est plus là. Vous n'avez pas de relation avec votre maman. Aussi, ça peut être lourd parce que vous n'avez pas d'enfant ou pas de mari, vous êtes seul. Mais pour certains, ce matin, ça peut être une fête qui n'est pas si réjouissante. Mais j'espère que par la parole de Dieu, on pourra quand même encourager les mamans et les femmes. C'est ça, mon but, pas juste encourager les mamans comme telles, mais les femmes en général. Qu'est-ce que Dieu nous dit concernant les femmes? Si je vous disais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont marqué l'histoire, je ne sais pas si vous avez des personnes en tête, moi j'en ai une. Elle s'appelle Amy Carmichael. Amy Carmichael est née dans les années 1800. Et Amy Carmichael a... J'étais supposé de partir.
Collecteur.
OK, c'est bon. Merci. Ça ne revient pas, j'ai oublié. Amy Carmichael, c'est une missionnaire irlandaise qui est allée aux Indes. Elle était aux Indes pendant 50 ans sans jamais revenir à la maison. Et Amy Carmichael est allée aux Indes pour servir le Seigneur. Mais pas dans le rien qu'elle s'attendait, parce qu'elle voulait être missionnaire pour aller dans le champ missionnaire. Et Dieu l'a appelée à ouvrir une orphelinat. Il était là pendant 50 ans. Il sortait les enfants des temples où ils étaient utilisés pour la prostitution et il les emmenait dans l'orphelinat. Ça s'en est occupé pendant 50 ans. Malgré qu'elle n'a jamais eu un enfant de sa vie, elle a géré une orphelinat pendant 55 ans. Et sur sa tombe aujourd'hui, il y a écrit seulement qu'une chose, Amma, qui veut dire maman. Maman. Elle a été vue comme une maman, malgré qu'elle n'a jamais eu un seul enfant. Peut-être que vous avez des noms en tête de gens plus proches qui ont une grande influence dans vos vies, les mamans. Moi, j'en ai deux. Premièrement, mon épouse. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a deux enfants qui ont 25 et 27 ans. Mais ce n'est pas les enfants de mon épouse. Mais mon épouse les a aimés. On a pris soin comme si c'était ici. Grande influence dans ma vie. Et la deuxième, c'est ma maman à moi. Je me rappelle, il y a presque 20 ans, je me suis retrouvé seul, à 33 ans. Et ma mère, à l'âge de 65 ans, à tous les samedis, elle venait chez nous faire le ménage. Puis je disais, maman, maman de toujours, Daniel, maman un jour, maman toujours. Malgré son âge avancé, elle a venue prendre soin de son fils pendant plus d'un an. Les mamans. Et moi, qu'on commence en tournant dans 1 Samuel 13, s'il vous plaît. 1 Samuel 13, au verset 13 et 14. Et c'est l'histoire du roi Saül qui est rejeté par Dieu. Regardez ce que le verset nous dit, verset 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé et tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël et maintenant ton règne ne durera point. Regardez ce qu'il dit. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Un homme selon son cœur. Est-ce que vous connaissez les femmes selon le cœur de Dieu? Dans la Bible, il y en a beaucoup. John MacArthur a écrit un livre qui s'appelle « 12 femmes extraordinaires ». Voici la liste des femmes qui lisent dans la Bible comme étant des femmes extraordinaires. Ève, premièrement la mère de tous les croyants. Sarah, la femme d'Abraham. Rahab, la prostituée. Ruth, une Moabite. Anne, la mère de Samuel, dont on va parler ce matin. Marie, la mère du Seigneur Jésus. Anne, la prophétesse, la femme samaritaine. Marie et Marthe, les deux sœurs de Lazare. Marie de Magdala et finalement Lydie. Et ce qui est intéressant dans cette liste-là, c'est que plusieurs de ces femmes-là étaient considérées comme des femmes non respectables. Rahab, une prostituée. Pourtant, elle a été retrouvée comme une femme extraordinaire. Ruth, c'était le Moabite. Et quand on lit l'histoire des Moabites, c'est un peuple qui a été maudit par Dieu. Pourtant, elle a été reconnue comme une femme extraordinaire dans la Bible. La femme samaritaine a eu 5 maris. Marie Magdala, au mieux, elle a eu 7 démons. Mais pourtant, c'est des femmes qui ont été reconnues comme des femmes extraordinaires, qui ont marqué le cours de l'histoire. Tournez avec moi dans. Et restez, gardez-le-vous dans 1 Samuel. Tournez avec moi dans Matthieu 1. Matthieu 1. Et c'est intéressant quand on s'arrête et qu'on regarde la généalogie du Seigneur Jésus. J'aimerais juste regarder Matthieu 1, versets 5 et 6. Il nous dit ceci. Salmon engendrait Boaz de Rahab. C'est qui Rahab?
Une prostituée.
Boaz engendrait Obed de Ruth. Qui est Ruth? Une Moabite. Obed engendrait Isaïe. Isaïe engendrait David. Le roi David engendrait Salomon de la femme de lui. Qui est la femme de lui? Femme adultère. Il a trompé son mari et est allé coucher avec le roi David. Ça, c'est la descendance de notre sauveur. Ça commence pas bien. Hein? Une prostituée, une moabite, puis une adultère. Savez-vous ce que ça me dit? Christ a pas honte de s'identifier à des femmes ordinaires. C'est ça que ça me dit. Christ n'a pas eu honte. Christ est capable de faire prendre des femmes avec des mauvaises réputations et en faire des femmes extraordinaires. Frappant quand on pense à ça, hein? Christ aurait pu prendre les plus grandes reines du monde dans sa descendance. Non! Une prostituée, une moabite, puis une adultère. C'est ça la beauté de l'Évangile. Dieu transforme les cœurs. Ça me dit que Dieu ne prend pas les superstars du monde pour faire son œuvre. Moi, c'est ça que ça me dit. Dieu ne prend pas les femmes superstars. Dieu prend les femmes ordinaires pour faire une œuvre extraordinaire. Et c'est encourageant, ça. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 1, 25 et 26, « Considérez frères et sœurs, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de gens sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts, et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. » Ma soeur, tu peux être une femme extraordinaire. utile dans les mains de Dieu, qui que ce soit que tu étais avant de connaître le Seigneur Jésus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu prend des femmes ordinaires pour faire une œuvre extraordinaire. On en a des exemples dans la Bible. John MacArthur a dit ceci. Ces femmes ne sont pas devenues extraordinaires à raison de leur qualité personnelle, mais parce que le vrai Dieu qu'elles adoraient est grand, puissant et glorieux et redoutable, et qu'il les a purifiées comme on purifie l'argent. L'œuvre de la grâce de Dieu dans leur vie a rendu chacune de ces femmes vraiment extraordinaire. Donc, la première chose que ça me dit, c'est que Dieu prend les femmes ordinaires pour faire quelque chose d'extraordinaire. La deuxième chose que ça me dit, ça me montre le cœur de Dieu envers les femmes. Pourquoi je dis ça? Quand on lit abondamment, quand on s'arrête et qu'on lit avec. Et si on étudie la Bible, on peut voir la grande place des femmes dans la Bible. Et même dans le ministère du Seigneur Jésus. Et ça, c'était complètement révolutionnaire. Au temps du Seigneur Jésus, les femmes, là, c'était des tapis. On pliait dessus. Ça n'avait aucune valeur, une femme. Et quand on voit le Seigneur Jésus prendre les femmes avec lui, les emmener dans son ministère, les utiliser, c'était complètement révolutionnaire. Parce que Dieu aime les femmes autant que les hommes. Quand Dieu a créé la femme, il l'a créée à son image. Pas inférieure à l'homme. À son image. En plus, les femmes ont tenu beaucoup de rôles importants dans la vie. Faites juste penser à Ève. Si Ève n'était pas là, on ne serait pas ici. Vous d'accord? Sarah, par qui la promesse de la descendance d'Abraham a été reçue. Ruth, l'arrière-grand-mère du roi David. Myriam, la sœur de Moïse. Rappelez-vous la place qu'elle a pris avec ses deux frères pour faire sortir le peuple d'Israël. Moïse a utilisé sa sœur grandement. Elle avait une grande place dans la libération du peuple d'Israël. La reine Esther. La première quand elle a sauvé, Dieu l'a utilisé pour sauver son peuple. Pourtant, c'était une femme. Marie, la mère du Seigneur Jésus. Priscille, couvrière avec l'apôtre Paul, le plus grand chrétien que la terre a jamais porté. Priscille a travaillé avec l'apôtre Paul, la couvrière avec lui. Comment Christ appelle son Église? Son épouse. Est-ce que les femmes ont une place importante dans le cœur de Dieu?
Oui.
Absolument. Même Christ appelle mon épouse. Nous sommes l'épouse de Christ. Une femme selon le cœur de Dieu. J'aimerais qu'on regarde Anne, la mère du prophète Samuel. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de Anne, une femme selon le cœur de Dieu? Mais qu'on tourne dans 1 Samuel 1, juste un petit peu avant, ce qu'on a lu tantôt. Deux traits de caractère de Anne. 1 Samuel 1, 1 Samuel 2, verset 1 et 2. On va recommencer à regarder sa prière, et ensuite on va regarder le contexte en arrière de cette prière-là. Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » Belle prière, hein? Une femme qui se réjouit de la bonté de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Anne était stérile et Anne a prié Dieu pour que Dieu puisse lui donner un enfant. Et Anne a un cœur rempli de reconnaissance. Ça va penser Quand je regardais le texte au psaume 51,8, il nous dit ceci. Allons, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Anne, c'est une femme qui a souffert, mais qui est capable quand même de se réjouir en Dieu. J'aimerais regarder deux caractéristiques de Anne. Mais avant, j'aimerais regarder son contexte de vie. Pourquoi c'est tellement spécial que Anne s'est réjouie malgré ses circonstances? La première chose que 1 Samuel 1 nous dit, c'est qu'elle était mariée à un homme de Ramoth-Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana. Il faut comprendre que Elkana et Anne vivaient au temps des juges, un temps de noirceur spirituelle. Le peuple avait complètement abandonné l'Éternel. C'est un temps comme le nôtre, dans le fond. Vous d'accord? Un temps de noirceur spirituelle. Juges 2, 10 et 12 à 12 nous dit ceci. Toute cette génération fut recueillie auprès des pères après Josué, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait ni point l'Éternel, ni ce qu'elle avait fait en faveur d'Israël. Et Juges 21, 25 nous dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est le contexte que Anne vit dedans et qu'elle fait cette belle prière-là à Dieu. Mais ce n'est pas son seul problème à Anne. 1 Samuel, verset 2. Son mari avait deux femmes. Cool. C'est probablement pas une relation de couple idéale, vous êtes d'accord? Deux femmes. Imaginez-vous déjà deux femmes dans votre maison. C'est pas pour rien que Dieu n'est pas pour la polygamie. Hein? Donc, elle vit dans un contexte corrompu. Son mari a deux femmes. Mais c'est pas juste ça. Regardez ce qu'il nous dit au verset 5. Son mari donnait une portion double car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. En plus, elle est stérile, la pauvre madame. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Et il faut comprendre qu'au temps biblique, être stérile, c'était une malédiction. C'était même vu une malédiction de la part de l'Éternel. Être stérile, c'était pas comme aujourd'hui. C'est grave. Psaume 127, 3 et 5 nous dit ceci. Voici tes fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit de tes entrailles est une récompense. Ça veut dire si tu n'en as pas, ça veut dire quoi? C'est une malédiction. Luc 1, 24 et 25, la prière de la mère de Jean-Baptiste, après qu'elle ait su qu'elle était enceinte, parce qu'elle était stérile aussi. Elle dit quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte, et pendant 5 mois, elle se cacha. Et je disais, c'est l'œuvre du Seigneur. Il a jeté un regard favorable sur moi et effacé ce qui faisait ma honte. C'est honteux de ne pas avoir d'enfant, d'être stérile. En plus que son mari a deux femmes, la deuxième femme, elle tombe ses nerfs. Regardez ce que c'est ça. Sa rivale, deux femmes qui vivent dans la même maison, regardez ce qu'elle dit. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'éviter à ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Elle tombait ses nerfs à l'année longue, pas toutes les années. Chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Péninnah la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Ça n'allait pas bien pour Anne. Pour finir le plat, son mari ne la comprend pas. Regardez ce que son mari dit au verset 8. Elle connaît son mari lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 fils? » Elle est tout un encourageur, hein? Tabarnak. Tu m'as, t'as pas besoin de rien d'autre. Voyons. C'est une grande bénédiction dans ta vie. Faisait penser un petit peu aux amis de Job. Les amis de Job, ils ont encouragé Job le premier 7 jours. Et vous, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils n'ont pas dit un mot.
Quand est-ce que tu as commencé à te décourager? Quand ils sont trouvés à la boîte. Job 2, 13 dit ceci. Il se tint assis par terre auprès de lui pendant 7 jours et 7 nuits sans lui dire une parole, car il voyait combien sa douleur était grande. Et quand ils ont ouvert la job, dans la bouche, ils ont commencé à décourager le job. Ils citent les gars, les femmes en ouvrent vos oreilles. Il y a quelque chose pour vous autres. Maintenant, Joël. C'est ça, Joël?
Alexis.
Excuse-moi. Quand votre femme a vu quelque chose de difficile, là, elle veut vous dire quelque chose, là, elle n'a pas besoin de vos conseils. Elle n'a pas besoin de votre épaule. Avez-vous entendu déjà parler du syndrome de la clé perdue? Connaissez-vous ça? Non? Les gars, regardez les. Quand ta femme elle veut te conter quelque chose, puis tu as envie d'y dire quelque chose, tu fais ceci. Tu prends la clé, ta galoche. Là, tu t'en. Pratiquez vraiment, mon gars. Quand votre femme elle veut vous dire quelque chose, vous avez envie d'y dire, là, faites ceci. Ça marche.
Oui, mais.
Monsieur oui, mais. Oui, absolument. Monsieur oui, mais. J'ai besoin d'apprendre ça. C'est pas facile. Mais ça marche. Et le mari d'âme, c'est ce qu'il aurait dû faire. Et des fois, c'est ce qu'on aura besoin de faire, les gars. Pour encourager nos femmes, juste la famille. Juste, là, c'est correct. Donc, c'est le contexte de Anne. Pas un contexte facile. Mais malgré ça, Anne, elle loue l'Éternel. Pourquoi? Parce que dans son désespoir, elle a compris que le seul qui peut faire quelque chose pour elle, c'est Dieu. C'est une femme de prière. Elle a compris que le besoin d'aller crier, pleurer à son Dieu, parce que son mari ne peut pas l'aider, personne d'autre. Grande leçon. 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dit ceci. Priez sans cesse. Ou Luc 18, 1. Jésus leur adressa une parabole pour nous montrer qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. C'est ce que Anne a fait. Elle a crié l'Éternel pour avoir son enfant. Une femme de prière. Et je dirais, mes sœurs, le corps de Christ a besoin de femmes qui prient pour nos maris, pour nos enfants, pour le conseil d'Église, pour notre pays. Ça ne veut pas dire que c'est réservé aux femmes. C'est une grande part, je crois, que les femmes peuvent prendre dans la vie de l'Église, de nos familles. Priez. Priez pour nos enfants. Priez pour nous. Priez pour ceux qui dirigent l'Église. On en a besoin. L'Église a besoin de femmes qui prient. Le grand réformateur John Knox a dit ceci concernant la prière. Où il y a des prières constantes, il y a une réponse aux demandes. Le précepte, le commandement de prier est universel et est fréquemment inculqué et répété dans les Écritures. Demandez, vous recevrez. As-tu ça? Invoque-moi au jour de la détresse et je te livrerai et tu me glorifieras. Psaume 50. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Matthieu 26. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5. Je vous appelle donc avant tout à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité. 1 Timothée 2. Ensuite, John Knox ajoute ceci. Celui qui, quand nécessaire, ne désire pas le support et l'aide de Dieu, provoque sa colère autant que celui qui se fait des faux dieux et que celui qui nie ouvertement l'existence de Dieu. John Knox dit, si tu ne vas pas crier à l'Éternel quand on en a besoin, tu es aussi pire que quelqu'un qui se fait des idoles. Tu déclares ton indépendance à Dieu. Quelqu'un dit ceci, la prière est le muscle qui fait bouger la main de Dieu. C'est beau, hein? La prière est le muscle qui fait bouger la main de Dieu. Donc, premièrement, Anne, c'est une femme de prière. Elle a crié à l'Éternel. Je crois que la deuxième chose d'une femme, selon le cœur de Dieu, c'est une femme qui connaît son Dieu. On regarde la prière de Anne, et c'est une prière de reconnaissance. Mais quand on lit la prière comme il faut, on s'aperçoit que Anne connaissait vraiment son Dieu. Je vais juste prendre une minute pour vous lire du verset 1 à 8. Mais regardez toutes les choses qu'elle dit de Dieu. 1 Samuel 2, verset 1 à 8. Elle dit, « Mon corps se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis dans mon Sauveur. Nul n'est saint comme l'Éternel, et il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme toi, notre Dieu. Ne parlez plus avec autant de hauteur que l'arrogance ne sort plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui, toute pensée, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est fécue. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre du fumier et il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car l'Éternel, à l'Éternel sont les colonnes de la terre et sur elle qu'il a posé le monde. Imaginez-vous toutes les choses que Anne peut dire dans 6 versets. Elle connaissait son Dieu. Regardez ce qu'elle a dit. Au verset 2, elle a dit que Dieu, l'Éternel est saint. Il est unique. Il est solide. Le prenant un rocher. Il sait tout au verset 3. Il est celui qui délivre du méchant, au verset 4 et 5. Celui qui donne les enfants, à la fin du verset 5. Il contrôle la vie et la mort. Il est celui qui bénit ou maudit. Il est celui qui élève ou qui abaisse, quand il veut. Il est le Créateur, au verset 8. Il est son défenseur, au verset 9 et 10. Wow! Il y a du stock dans ce verset-là. Hein? Est-ce qu'elle connaissait son Dieu? Tu ne peux pas faire une prière comme ça si tu ne connais pas ton Dieu. C'est impossible. Capable de dire que ton Dieu est saint, unique, solide, omnipotent, délivre, donne des enfants, contrôle la vie et la mort, bénit, maudit, élève, abaisse, il est le Créateur, il est son défenseur. Elle n'a pas sorti ça d'une boîte de popcorn. Elle connaissait son Dieu. Et c'est ça une femme selon le cœur de l'Éternel. Une femme qui prie et une femme qui connaît son Dieu. Et c'est pour ça qu'à la fin, elle a pu bénir l'Éternel comme ça. Elle n'a pas un contexte facile. Elle a crié à l'Éternel. Parce qu'elle connaissait son Dieu. Et elle savait qu'elle pouvait faire confiance à son Dieu. Je te dirais, ma soeur, ce matin, que tu sois mariée ou non, que tu aies des enfants ou non, premièrement, est importante aux yeux de Dieu. Dieu t'aime. Et que qui tu sois, quoi que ce soit que tu aies fait, Dieu peut l'utiliser. On est tous appelés à imiter les grands de la Bible. Hébreux 6, 10 nous dit ceci. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance, en sorte que vous vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. On est appelé à imiter ceux qui sont passés avant nous. Il y a des mamans, des grands-mamans, qui prennent soin de petits-enfants. Des matantes qui encouragent, des professeurs d'école du dimanche. Les vrais héros, là, pas à la télé, ça. Ils sont ici. C'est quand même, les vrais héros sont ici. Pas à la télé. On élève les mauvais gens, les mauvaises personnes. Je l'ai dit tantôt, essayez d'imaginer un monde sans les femmes. Ça serait un monde pas mal fade. Vous d'accord?
Ouais.
Pas de couleur. Imaginez une société où il n'y a pas de femmes. Moi, je vous dirais un gros merci de la part de chacun des hommes pour l'avoir pris dans nos vies, nos enfants. Vous faites une différence. Vous avez une influence. Je vais vous lire un poème tantôt qui parle de l'influence d'une femme. C'est un poème d'un auteur inconnu. Et qui parle de l'influence des mamans et des femmes dans nos vies. C'est ceci. Les enfants nous observent beaucoup sans que nous le réalisions. Ils font ce qu'ils voient et non ce qu'on leur dit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le dire. Mais souvent, ils font beaucoup plus ce qu'ils voient que ce qu'on leur dit. Et ça s'intitule « Lorsque tu ne me regardais pas ». Ça dit ceci. « Lorsque tu ne me regardais pas, je t'ai voulu nourrir un chat perdu et j'ai compris qu'il fallait être bon pour les animaux. Lorsque tu ne me regardais pas, je t'ai vu préparer mon gâteau préféré pour moi. Alors j'ai compris que les petites choses sont très importantes dans la vie. Lorsque tu ne me regardais pas, je t'ai entendu prier et j'ai compris qu'il y a un vrai Dieu et que je peux lui parler et avoir confiance en lui. Lorsque tu ne me regardais pas, je t'ai vu préparer un repas et aller le porter à un ami qui était malade. Et j'ai compris qu'il faut s'entraider les uns les autres. Lorsque tu ne me regardais pas, je t'ai vu donner du temps et de l'argent à des gens nécessiteux. Et j'ai compris que ceux qui le peuvent doivent aider ceux qui sont dans le besoin. Parce que nos actions font une différence. Hein? Lorsque tu ne me regardais pas, je t'ai vu nettoyer les maisons et voir aux besoins de chacun de nous. Et j'ai compris qu'il fallait respecter les autres et prendre soin de ce qui leur appartient. Lorsque tu ne me regardais pas, je t'ai vu prendre tes responsabilités au sérieux, même quand tu ne te sentais pas bien, et j'ai compris que c'est que d'être un adulte responsable. Lorsque tu ne me regardais pas, j'ai vu des larmes dans tes yeux, et j'ai compris qu'il y a des choses qui nous font souffrir et qu'on peut pleurer. Lorsque tu ne me regardais pas, j'ai vu comment tu nous aimais et j'ai voulu devenir la meilleure personne qui m'était possible d'être, comme toi. Lorsque tu ne me regardais pas, j'ai appris de toi toutes les leçons importantes de la vie dont j'avais besoin pour devenir une personne productive et grandissante. Lorsque tu ne me regardais pas, je te regardais et je voulais te dire merci pour toutes les choses que j'ai vu faire pendant que tu ne me regardes pas. Merci, mes sœurs. Fais une différence dans nos vies. Dans la vie de nos enfants. Des fois, on pense que nos enfants ne nous regardent pas. Mais ils nous regardent. Je vais juste terminer par la prière. Oui, Père, quand même, je veux te dire merci. Merci pour ces créatures, Seigneur, si merveilleuses que tu as à côté de nous autres, autour de nous. Merci pour nos moments. Merci pour les femmes, Seigneur, que tu as mis dans nos vies et autour de nous. Seigneur, merci parce que toi-même, tu as été l'exemple parfait en élevant les femmes autour de toi. Seigneur, tous les grands enseignants, les grands gourous, tu sais, n'avaient aucune valeur pour les femmes. Mais toi, Seigneur, tu as élevé les femmes. Et on voit partout à travers de la Bible combien, Seigneur, tu as utilisé les femmes. Et des femmes ordinaires. Des femmes, Seigneur, avec des passés que probablement nous, on n'aurait pas voulu utiliser. Seigneur, tu as utilisé des prostituées. Des femmes qui avaient des démons. Femmes qui étaient mariées 5 fois. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta patience. Encore une fois, Seigneur, merci pour les femmes que tu as mises autour de nous. On est reconnaissants. Viens bénir cette journée, Seigneur. Sois avec chacune des sœurs. Et les encourager. Même si pour certains, ça possiblement une journée plus difficile. Mais qu'ils puissent se rappeler, Seigneur, que tu les aimes. Et que toi, tu les as pas oubliés. Encore une fois, Seigneur, merci. Merci pour la croix. Merci pour le Seigneur Jésus. À toi sur la gloire.